Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio.
Benoît Dutrisac.
À un moment donné, qui gère le système?
Mario Dumont.
Le point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions...
La rencontre.
Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence.
Excuse-moi, je t'arrête là.
Non, pas toi, là.
Ça ne les regarde pas.
Mais je comprends sa crainte.
C'est pour les imbéciles.
La rencontre Dutrisac-Dumont.
Mario Benoît, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, l'école qui recommence lundi, on s'y attendait quand même un peu. Mario, bonne nouvelle, es-tu surpris?
Ben, on s'y attendait. C'était l'annonce du gouvernement. Là. Le 30 décembre dernier, le gouvernement avait annoncé le 17 janvier. Et ils ont jamais fléchi depuis ce temps-là. Nous, les médias, on s'est posé des questions. Bon, il y a eu cette semaine l'arrivée d'un nouveau directeur de la santé publique qui lui a dit « Ah, moi, je vais me redonner du temps pour regarder ça. » Mais du côté du gouvernement lui-même, il n'y a jamais eu d'hésitation. On a toujours... Et moi, j'ai reparlé à des gens hier matin qui étaient fermes là, sur le fait que c'est l'école reprend lundi, point final. Donc, pas de surprise de ce point de vue-là. Ce qui est plus la surprise, c'est le changement de philosophie générale. On sent que le gouvernement va avoir une approche plus... Le mot qui me vient, c'est plus lousse, là. Mais tu sais, moins restrictive avec la COVID à tout point de vue. Là, qu'on s'apprête à lever le couvre-feu, que dans les écoles, on va tolérer de la COVID. Et je comprends qu'on va fermer une classe, là. Ça va être un jugement du directeur d'école sur un taux d'absentéisme démesuré, là. Mais sinon, on va enlever l'enfant, on va isoler pendant non plus 10 jours, mais 5 jours. On va isoler l'enfant qui aura un test positif. On va isoler l'autre enfant. Le reste du groupe continue.
Qui a des symptômes, là, ouais.
Ben oui, on reste le reste du groupe continue. Et bon, s'il manque trop d'enfants, si on a vraiment une éclosion majeure, on va fermer la classe. Donc, l'idée, ce qu'on faisait avant, le fermer la classe pour un cas ou deux, ça c'est fini là. Donc on va vraiment tolérer la présence de la COVID. Donc il y a clairement, là, de façon générale, un changement d'orientation.
Benoît.
Ben, tu sais, si le gouvernement dit le 17, puis ça va être le 17, puis c'est le 17 depuis fin décembre, il nous dit pas tellement comment, par exemple. Il y a beaucoup de questions là qui sont encore sur la table. Toutes les règles là, de fermeture de classe, d'ouverture de classe, ça ressemble aux règles de stationnement à Montréal. Là, à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes, là, tu lises les 8 pancartes pour dire, est-ce que j'ai le droit de me stationner ici? Est-ce que j'ai le droit de rester en classe? Qu'est-ce qu'on va faire avec les profs? Est-ce que les profs vont devoir s'isoler à chaque cas dans leur classe?
Qu'on comprend, c'est que non.
Ben, ça va prendre quoi pour accueillir...
Test positif ou des symptômes?
Un cas contact à la maison ou des symptômes.
Je comprends, mais là, les profs qui sont en classe, là, puis là, ils apprennent qu'il y a des enfants qui ont la COVID, ils vont se tester à chaque fois?
Oui.
Tu sais, moi, je comprends. C'est ça. Mais tu sais, je comprends que faut ouvrir, là. Mais il y a beaucoup de questions, là, qui sont encore sur la table. Puis, M. Robert, j'ai pas là pour y répondre de toute évidence.
Mais ben, M. Boileau. Pas tant que ça de questions. Avec l'annonce d'hier, la question, c'est qu'on va. Non, mais la question, c'est qu'on va vivre avec la présence qu'il y a des cas de COVID, puis on isole ceux-là, puis on continue l'école.
On va vivre. On décide que les profs vont vivre avec cette réalité-là. Au moins, là, on voit une ouverture, puis il est à temps, puis on est en retard encore une fois sur les N95 pour le personnel scolaire, pour les profs. Ça, M. Arruda ne voulait rien savoir. Là, M. Boileau arrive, puis là, c'est une option. Le jeudi, avant l'ouverture du lundi, tu sais.
Sur celle-là, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est tout le monde crie la science. Là, je pense que c'est le syndicaliste qui va avoir gagné sur la science.
Non,
parce
arrête
que,
donc.
Absolument. À la santé publique, les gens sont convaincus scientifiquement que le N95, c'est pas la meilleure chose pour les enseignants. Mais puisqu'il est demandé, le gouvernement lui était prêt à le payer là, depuis plusieurs mois, là, plusieurs
non,
semaines. Le gouvernement avait
en entrepôt, puis il voulait les vendre au lieu
non, mais il y en avait pour les enseignants.
Il manque plus, pour le
gouvernement, c'était pas de pardonner aux enseignants. C'est la santé publique qui dit c'est inutile, ça va couper le son, la rangée d'un arrière d'élèves entendront pas. C'est pas le bon masque pour le bon métier.
Mais c'est quoi la priorité là-dedans? C'est de protéger les profs, là. Si les enfants au fond de la classe n'entendent pas qu'ils s'approchent. Mais tu sais, l'idée, c'est de protéger les profs. Écoute, à Cube, là, on a commencé à distribuer les N95 pour ceux qui travaillent en régie. C'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que ça améliore la protection. Tu sais, là, moi, je veux bien remettre en question, puis là, dénoncer les syndicats, mais...
Non, c'est pas de dénoncer les syndicats, c'est de dire que c'est pas le... dire la santé publique avait évalué scientifiquement ça. C'est pas le gouvernement qui voulait pas donner de N95 parce qu'il voulait les retenir. Et ça avait été étudié scientifiquement, puis ils avaient dit c'est pas le bon 2020, masque pour le bon métier. Mais moi,
En mars 2020, là, Arruda disait la même niaiserie avec le masque. Alors que tout le monde disait, oui, le masque est un des outils pour se protéger contre la COVID. Et là, il a répété la même affaire en présence de M. Roberge. Tu sais, c'était s'obstiner. Moi, je veux bien qu'on dénonce, tu sais, c'est pas la science. Il y a science exacte, la science, tu sais, la science
incluse. Est-ce qu'il y a eu des tests? Mais moi, la question, c'est est-ce qu'il y a eu des... Est-ce qu'on l'a essayé, le N95, dans les classes?
La semaine passée, il y a eu une évaluation de la qualité, de la protection des masques. Mettons,
on dit que la santé publique ne le recommande pas, là, parce que c'est pas le bon masque. Puis on parle d'une variante là, du N95.
Qu'est-ce qu'il recommande d'avoir?
Non, mais je comprends, mais je me demande juste, Mario, est-ce qu'on a essayé? Est-ce qu'on a mis genre deux profs d'une classe? J'essaie juste de... j'ai de la difficulté des fois à voir c'est quoi leur recommandation. Ils se basent sur quoi? Ils l'ont essayé dans leur bureau, puis ça...
Au moins dans le cas des enseignants, moi, je comprenais qu'on veuille des N95 du côté des enseignants, au moins pour ceux qui sont avec les tout-petits.
Ben oui. Les écoles spécialisées, là, tu sais, t'as fait des entrevues là-dessus.
Les écoles spécialisées, ben oui. Parce qu'eux, ils sont dans un contact là, unique avec les enfants, là, de très, très proches. Dans certains cas, ils les prennent dans leurs bras.
Là. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? C'est déjà, il y avait une pénurie de profs, là. Qu'est-ce qu'on fait lundi, le 17 janvier? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des profs absents? Est-ce qu'on rassemble les classes? C'est impossible. On va pas mettre plus d'enfants dans les classes. Alors, en France, là, ils ont ouvert il y a 2 jours, et il y a 7% des profs qui sont absents. Qu'est-ce qu'on a prévu pour ça? Qu'est-ce qu'on prévoit pour les chauffeurs d'autobus? Je disais ça dans la presse, qui vont être absents, tu sais, du jour au lendemain, là. Il y a plusieurs questions, tu sais. Il y a comme pas de plan de match pour dire, OK, si ça arrive, voici ce qu'on va faire. Si ça arrive, voici le plan B. C'est comme, on rouvre, puis arrangez-vous avec ça. C'est la même façon qu'on a procédé depuis 2 ans au Québec. On décide, nous autres, puis vous autres sur le terrain, démerdez-vous. À un moment donné, ça prendrait un lien entre les deux. Ça prendrait un plan de match, ça prendrait des plans B, ça prendrait des discussions avec les directions d'école pour savoir quoi faire en telle situation. Puis j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. En fait, moi, ce que je propose, vous savez, je suis là pour aider, il me semble qu'on devrait mettre un membre de la communauté assidique en charge du retour en classe. Parce que ça a l'air à bien avoir marché à Outremont, puis partout, les enfants sont restés à l'école, sont restés à classe. On n'a pas entendu parler d'éclosion particulière dans les écoles assidiques à travers le Québec. Donc, moi, c'est ma suggestion ce matin, mais on devrait considérer.
Mario.
Mais moi, convaincu là, que ça va être très, très, très... Tu sais, Benoît parle d'un plan de match, mais plan ou pas, ça va être très difficile, là. Et la réponse au gouvernement qu'on nous donne, c'est « Ouais, mais tu vois, il va y avoir beaucoup d'éclosions. » Ils répondent « Ouais, il va y avoir beaucoup d'éclosions. Il va y avoir des profs qui vont être en isolement. » Oui, il va y avoir des profs qui vont être en isolement. Il va y avoir des groupes, il va y avoir plein de cas de COVID. Tout le groupe va l'avoir. Ouais, ça va arriver à quelque place, inévitablement. Mais les enfants vont à l'école. C'est aussi simple que ça.
La question aussi, là, est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix? Là? Est-ce qu'on peut garder encore les enfants à l'école?
Les parents,
on n'a pas le choix. Faisons-le le plus sécuritairement possible.
Mais tu sais, puis peut-être question plus générale aussi, est-ce qu'on est en train de changer notre approche au virus? Parce que,
Oui.
On va lever le couvre-feu aussi lundi, mais peut-être qu'il y en a qui vont être mêlés, comme tu disais tantôt, comme se stationner à Montréal dans les rues, mais à un moment donné, est-ce que là, d'un côté, on dit, regardez, il faut apprendre à vivre avec le virus, on va apprendre à vivre avec le virus dans les écoles, le couvre-feu, on en reparlera dans quelques secondes, mais est-ce que d'un côté, on nous dit ça, puis de l'autre... On voit des personnes ce matin qui sont victimes du délestage, qui savent pas à quel moment avoir leur opération. On nous dit que les hôpitaux, c'est à côté serré, barre en barre, point de rupture, point de non-retour. On va arriver à des nouveaux niveaux de délestage.
Vous pensez pas que c'est la meilleure façon d'inciter? Moi, on m'a dit que c'était 98-99% des profs qui étaient vaccinés. Fait que je pense que c'est, tu sais, il y a pas trop de risques, puis le 1% ou le 2% va être soit absent ou soit ont des raisons.
Ouais, mais pour les familles, des enfants, puis il y a tout ça, là, mais ouais. Mario.
Mais on n'a pas le choix, là, on n'a pas le choix. Faut ouvrir les classes, puis il faut le faire de la façon la plus sécuritaire possible, la plus intelligente possible, puis la plus flexible possible. Mm. Mais il faut que le gouvernement soit là pour dire, on a prévu des plans B. Il faut que le docteur Boileau dise, voici le plan de match général, puis dans telles circonstances, voici ce qu'on a prévu, ce qu'on vous propose. Puis si vous avez des idées, appelez-nous. Tu sais, mais...
Mais je pense que ça va être une conférence de presse charnière après-midi pour répondre à ta question, Philippe Vincent. Moi, oui, je pense qu'il y a un tournant là, dans la gestion de la pandémie, dans toute cette notion là de vivre en présence du virus dans les écoles. La tolérance, par exemple, on dit on ferme plus les classes. Il y a un cas, deux cas, on laisse la classe ouverte. Le couvre-feu qui est levé, etc. Bon, il faudra que le gouvernement réponde à des questions sur le système de santé, mais à travers ça, le gouvernement semble penser qu'on est le pic du nombre de cas est atteint. Là. Mais c'est logique aussi. Là. C'est-à-dire, on a coupé les contacts complètement des gens depuis les derniers jours de décembre. 14 jours après, là, c'est probablement que le nombre de cas total, on le sait même plus. Là, les gens se testent eux-mêmes avec des tests rapides, mais c'est très probable que si on avait une mesure exacte du nombre de cas total, comme on l'avait autrefois, on le verrait descendre, là. T'sais, aujourd'hui, demain, on verrait...
Les hospitalisations continuent d'augmenter, puis les décès aussi.
Les hospitalisations, c'est 10 jours après. Donc les hospitalisations,
c'est plus comme ça avec Omicron, là.
Ben, ils vont commencer à descendre potentiellement les hospitalisations dans une couple de semaines, là.
Moi, j'aime pas ça vous entendre vous chicaner comme ça.
Je chicane pas, c'est juste que j'ai l'impression qu'on se base sur quelque chose qu'on a de la difficulté à avoir.
Oui, mais tout le monde a de la misère à faire un sang. Hier, je me suis testé, puis j'ai appris que j'étais enceinte. J'arrive plus, là, tu sais. On a tout fait le monde.
C'est à cause de toi
assurer.
Qu'il faut dire les gens enceintes, non pas les femmes enceintes.
Merci, c'est ça. Non, mais c'est vraiment, mais honnêtement, là, nous, on fait les smats le matin, là, mais de faire, d'avoir une image globale de ce qui se passe, puis de savoir quoi faire, c'est bonne chance. Bonne chance. Monsieur Arruda est parti au bon moment. Il a dit, hey, de la merde, c'est trop compliqué. Tu sais, puis il a bien fait. Mais on est rendu à un point où, effectivement, il va falloir gérer le risque. Mais en gérant le risque, ça va, je pense, inciter une couple de personnes à aller se faire vacciner, les récalcitrants là à qui on peut rien faire comprendre.
Mais le couvre-feu, là, le fait de l'enlever pour lundi, est-ce que c'est...
Ça, c'est dommage, ça.
Non, mais c'est dommage,
j'aime le couvre-feu, mais on a appel le soir. Tu sais, à 10h, là, tout est fermé, tout est tranquille. C'est parfait. Tu sais, il y a plus, on vit tranquille. Je suis rendu à un âge où je veux plus être dérangé à 10h le soir.
Mais va vivre à Saint-Lambert.
Ben, c'est ce que je fais. À peu près.
Non, mais pour vrai, est-ce que c'est une preuve que c'était pas vraiment utile finalement parce qu'on l'enlève alors que, bon, les hospitalisations continuent d'augmenter puis on a dit que c'était notre cible qu'on allait suivre? Est-ce que...
On ne saura jamais, hein?
Ben, je sais pas, Mario.
Non, mais je pense que ça faisait partie d'un électrochoc, là. T'sais, c'est le geste. Quand tu donnes un électrochoc de, t'sais, le fameux chacun reste chez eux, là.
Ouais.
Ben, c'est l'ultime. Tu dis même à part entre telle heure et telle heure, là, on sort plus. Puis là, ben progressivement, moi, ça me dit que progressivement, là, on va commencer à enlever des mesures. Donc, c'est pour ça que le gouvernement semble avoir des indications tant soit peu optimistes sur le
En même temps, il s'est pas fait avoir souvent, ce gouvernement-là, était un peu trop optimiste?
Peut-être.
Mais
je regarde autour de moi, pis c'est sûr que mon réflexe, c'est de penser que tout le monde l'a eu.
Oui.
Où tout le monde doit l'avoir. Hier, là, on avait une conversation hier, ici, puis on se disait, est-ce qu'on devrait, comme, le pogner, le virus? Puis on a eu des nouvelles de gens qui l'ont eu, là, des profs à l'école, entre autres, là. Puis il y en a une qui a dit, pendant 3 jours, je pensais mourir. Mm. Fait que c'est toujours pas une petite grippe. Il y en a pour qui, tu sais, si t'as été trois fois vacciné, je pense que les symptômes sont plus légers, mais faut voir c'est quoi léger, faut voir c'est quoi ton profil physiologique là, face au virus. Il y en a qui s'en sortent bien, il y en a qui ont vraiment de la misère à passer à travers. Puis moi, ce que j'entends dernièrement, c'est que c'est tough là. Quand tu pognes la COVID à un certain âge, là, 40, 50, 60 ans, c'est tough là. T'as beau passer à travers, t'en meurs pas, mais t'es magané. T'sais, hier, il y a une prof qui disait, c'est une prof, là, elle se sent plus le pied droit. Il y a des séquelles. Là. C'est pas léger.
Non, puis les jeunes qui ont la COVID longue, ça existe encore. Là.
C'est ça. Fait qu'il va falloir gérer le risque.
Ouais. Mais c'est juste que j'ai l'impression que ça arrive vite, alors que cette semaine, on nous parle encore des hôpitaux qui sont sur le bord de déborder. Là. C'est peut-être juste moi qui...
Non, mais c'est vrai que ça arrive en parallèle. Là.
Qui ne m'habitue pas assez vite. Là.
Ouais, on va en parler encore plus en fin de semaine. À mon avis, là, on arrive là en fin de semaine, début de la semaine prochaine, ça va être le pire du pire dans les hôpitaux.
Mais j'essaie de conjuguer ça
non,
avec...
Non, je sais.
C'est ça. Puis là, s'il y a des éclosions dans les écoles, si on rapporte ça à la maison, s'il y a d'autres cas... on s'aide pas. En même temps, tu sais, là, faut gérer plusieurs dossiers en même temps. Les enfants doivent retourner à l'école parce qu'ils sont en train de virer fou. Puis là, les hôpitaux craquent partout. Il faut gérer ça. Il y en a pas. Il y a personne là qui lève la main qui dit moi j'ai la solution.
En tout cas, une des solutions, c'est d'aller se faire vacciner. Hier, on apprenait que c'était plus clair qu'est-ce qu'il fallait faire si on l'avait eu par rapport à la troisième dose. Le gouvernement dit allez-y, peu importe si vous avez eu des symptômes récemment ou pas. La santé publique disait faut peut-être mieux attendre un petit peu. C'est pas clair encore exactement quoi faire là-dessus, mais une chose est claire, si vous n'avez pas votre première dose, allez-y. On a un vétéran ce matin dans le Journal de Montréal. Une histoire où on apprend que lui, le vaccin, il croyait pas, puis il en est décédé.
T'as un vétéran anti-vax, là, je veux pas faire trop long là-dessus, là, Alain Poulain qui est décédé, puis il y a aucune raison de se réjouir, là, tu sais, monsieur Poulain, là, c'est un vétéran, il s'était un militant contre la vaccination au Québec, puis la veille de Noël, il a commencé à se sentir mal, puis finalement, il en est décédé, puis je me disais, ça va prendre combien d'exemples malheureux comme celui de monsieur Poulain, pour cesser cette obsession anti-vax. Le policier du peuple, là, Maxime Ouellette, là, Maxime Bernier, là, ils disent quoi de ces morts-là? Maxime Bernier qui vient nous faire suer avec ses marches de débiles ici à Montréal encore en fin de semaine, là, qui se fait du petit capital politique là, insignifiant. Il dit quoi de ces morts-là? Inutile, c'est un père de famille qui est mort. Mais là, on les craint. Ah oui, là, il faut être anti-vax, c'est une atteinte à notre liberté, c'est un choix personnel, blablabla, la bullshit. Mais ils sont où, là, ces prix Nobel qui militent contre la vaccination quand il y a des hommes, des pères de famille qui meurent de même, inutilement?
Mais lui, c'est triste à dire, là, M. Poulain en question était présent 3 semaines, là, jour pour jour, avant d'attraper la COVID, là, version très sévère. Il était dans une manifestation là où il encourageait les gens à pas respecter les mesures, puis que la COVID c'était rien, puis pas se faire vacciner. Pis, 3 semaines avant.
Mais t'as une gang de crinqués qui se crinquent ensemble.
Mais je suis convaincu que ça a très peu d'effet. C'est assez étonnant. Là. Même les gens qui manifestaient côte à côte avec lui, je suis à peu près convaincu qu'ils iront pas se faire vacciner. Ils vont dire ah il est mort.
Il est mort d'autre chose.
C'est toujours une explication.
C'est aberrant,
il y a toujours quelque chose.
Ouais,
c'est fou là.
Messieurs, bonne journée.
Salut. All right.